Il y a un peu plus d'une semaine, on a allumé les illuminations de Noël à Temple Square, perpétuant une tradition de 53 ans, et ce qui, pour beaucoup, marque le début de la période de Noël. À Noël, nous célébrons la naissance, la vie et la lumière de Jésus-Christ, le Fils littéral de Dieu et le Sauveur du monde. Nous trouvons de l'espoir dans la déclaration qui est à accompagner sa naissance. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. La musique, les enfants impatients, les cadeaux à donner et à recevoir, les sapins de Noël, des décorations et les lumières font tous partie de notre joyeuse célébration. Lorsque vous pensez à Noël, quels précieux souvenirs vous viennent à l'esprit? Pour ma part, cette période de l'année me rappelle toujours la célébration de Noël de mon enfance. Je me rappelle encore la plupart des cadeaux que j'ai reçus. Je me souviens d'un ballon de football américain, d'un ballon de basket, de jouets et de vêtements. La plupart de ces cadeaux sont maintenant disparus et ont été oubliés. Les vêtements sont usés et démodés. Mais ce dont je me souviens le plus de mes Noëls passés, mes souvenirs préférés et les plus poignants, ne sont pas à propos de ceux que j'ai reçus, mais de ceux que j'ai donnés. Je vais vous expliquer. Chaque année, le samedi avant Noël, les jeunes de notre paroisse se réunissaient à l'église. Nous remplissions des paniers d'oranges, de bananes, de biscuits et de gâteaux faits maison pour les apporter aux veuves qui résidaient dans les environs. Nous allions chez elles, nous chantions des chants de Noël et nous leur donnions les paniers de Noël. Je me souviens encore de leurs sourires reconnaissants. Certaines faisaient partie de la première ou la deuxième génération d'immigrants et exprimaient leur gratitude avec un accent prononcé. Sœur Schwartz, Zbinden, Grohl et Crackler. Et je n'oublierai jamais le sentiment chaleureux que cela a imprégné dans mon cœur. Quand Lisa et moi sommes devenus parents, nous avons lancé une tradition d'offrir des cadeaux de Noël à une famille qui est dans le besoin. Un organisme caritatif nous envoyait souvent le nom d'une famille ainsi que les âges des enfants. Leur trouver les bons cadeaux nous demandait beaucoup de temps et d'efforts. Nos fils avaient l'air aussi contents de le faire, de recevoir leurs propres cadeaux que de recevoir leurs propres cadeaux de Noël. Cette tradition de service familial a gravé dans notre cœur le véritable esprit de Noël. Dans ma vie professionnelle, je participais à la conception, à la fabrication et à la commercialisation d'équipements de mise en forme dans le monde. Des équipements comme des tapis de course, des vélos d'appartement ou des vélos elliptiques sont essentiellement conçus pour renforcer le cœur. D'ailleurs, notre compagnie faisait de gros efforts pour s'assurer que les utilisateurs de ces appareils pouvaient mesurer avec précision leur rythme cardiaque au moyen d'un cardiofréquencemètre. Aujourd'hui, nous sommes nombreux à porter au poignet une technologie qui mesure notre rythme cardiaque et qui nous encourage à prendre part à des activités qui renforcent notre cœur. Et s'il y avait un moyen de mesurer l'état de notre cœur d'un point de vue spirituel, un cardiofréquencemètre spirituel, si vous voulez, qu'indiquerait notre cardiofréquencemètre spirituel? Quel est l'état de santé spirituelle de notre cœur, de votre cœur? La période de Noël semble être le moment idéal pour chacun de nous d'évaluer consciencieusement l'état de son cœur. Par exemple, vous pouvez vous demander, mon cœur est-il préparé à recevoir le Sauveur? À Noël, nous chantons souvent, quand chaque cœur, il soit admis. Comment allez-vous préparer une place pour le Christ, l'admettre dans votre cœur, en particulier en cette période chargée et pourtant merveilleuse? Les Écritures sont pleines de descriptions qui nous aident à évaluer l'état de santé de notre cœur. Certains versets contiennent les mots « pur », « doux », « humble », « brisé » et « contrit ». Ces mots, et bien d'autres dans les Écritures, nous donnent une idée du cœur du Sauveur. Pour le recevoir dans notre cœur, celui-ci doit assurément être pur et humble, comme le sien. En paraphrasant les paroles de Paul, nous devons chercher à écrire les paroles et les vertus de Jésus-Christ comme une lettre écrite dans nos cœurs, un épître écrit dans nos cœurs, connu et lu de tous les hommes. Une épître de Christ écrit, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair et sur les cœurs. Cela exige davantage que de simples vœux de Noël plaisants sur nos lèvres. Jésus nous a avertis contre ceux à propos desquels il a dit « Ils s'approchent de moi des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi ». Ce Noël et tout au long de l'année, notre gentillesse et nos bonnes actions seront la meilleure indication que notre amour pour le Sauveur est écrit sur notre cœur. Lorsque je réfléchis à l'état de santé du mien, je trouve que les cœurs des personnes qui ont établi l'Église de Jésus-Christ au début du rétablissement sont de grands exemples de sacrifice et de force qui m'inspirent. Je vais vous raconter une histoire de Noël qui parle d'un des premiers saints des derniers jours, converti à Immingham, en Angleterre. Elle s'appelle Mary Wood Littleton. Mary et son mari, Paul, n'avaient jamais imaginé qu'ils quitteraient leur maison en Angleterre, mais ils ont entendu le message de l'Évangile rétabli et ont obtenu un témoignage de la véracité de cet Évangile. Ils se sont donc fait baptiser. Deux mois plus tard, Marie et Paul et leurs enfants embarqués pour l'Amérique afin de se rassembler avec les saints. Ils sont arrivés à New York le 20 décembre 1844. Cinq jours plus tard, ils se sont rendus en diligence à Nauvoo, Illinois. Imaginez, c'est en voyageant dans le froid, sur ces routes difficiles, qu'ils ont célébré leur premier Noël en Amérique. Malgré ces changements, Marie gardait dans son cœur l'espoir que les membres de sa famille fêteraient un jour Noël, comme ils le faisaient en Angleterre, avec des guirlandes, le Père Noël et des chants de Noël. Malheureusement, leur deuxième Noël en Amérique en 1845 ne fut guère mieux. Ils l'ont passé dans la caisse d'un chariot que Paul avait changé en abri de fortune, alors que la famille luttait pour s'établir à Nauvoo. À nouveau, le cœur rempli d'espoir, Marie a dit « L'année prochaine, Noël sera différent ». L'année suivante, en 1846, lors du troisième Noël de la famille en Amérique, Marie et les enfants se trouvaient à Winter Quarters préparant le long voyage vers l'ouest au printemps. Des émeutiers les avaient chassés de Nauvoo et Paul marchait vers l'ouest avec le bataillon mormon. À plus de 1000 kilomètres de là, une nouvelle fois, pas de chant de Noël et pas de Père Noël. Et à la place, il jeûnait et priait avec sincérité pour le fils de Marie âgé de 8 ans qui était sur le point de mourir de malnutrition sévère. Il a survécu, mais 25 autres sont morts ce jour de Noël à Winter Quarters. Ce n'est qu'au bout de leur quatrième Noël en Amérique, arrivé récemment dans la vallée du lac Salé, que Marie et sa famille ont finalement célébré Noël ensemble dans une paix relative. Même alors, ce n'était pas le genre de célébration qu'elle avait vécu en Angleterre. Mais d'une certaine façon, c'était encore mieux. En 1847, lors du jour du sabbat, de la célébration de Noël, le jour juste après Noël, les saints se sont réunis pour prier, exprimer leur gratitude et chanter des chants de louange à Dieu pour leur délivrance en Sion. L'un de ces cantiques, entonné avec ferveur, était « Venez, venez, sans craindre le devoir », écrit sur la piste des pionniers et qui est devenu un hymne de foi de ces premiers pionniers, saints des derniers jours. Par la suite, « Venez, venez, sans craindre le devoir » est resté un cantique très apprécié, même un chant de Noël lors des célébrations de Noël des pionniers. Je pense qu'au fil des années, les épreuves de Marie ont contribué à changer son cœur. Elle semblait comprendre Noël plus clairement, avec de nouvelles traditions de Noël et un nouveau cantique dans son cœur. Elle avait vraiment acquis un cœur disposé au sacrifice, centré sur son espérance et son amour pour Jésus-Christ. La période de Noël semble être le moment approprié pour méditer sur la santé spirituelle de notre cœur. Alors, je conclus avec une suggestion simple qui nous aide à mesurer et à renforcer notre cœur spirituel. Pour que nous en fassions notre cadeau à notre Sauveur, Jésus-Christ, cette année, j'invite chacun de nous à choisir de faire quelque chose qui exprime de manière visible nos sentiments intimes pour lui. Comme Mary Littleton, nous sommes réunis ce soir en tant que disciples fidèles de Jésus-Christ pour l'adorer. Maintenant, écoutons attentivement le cœur se joindre à celui des anges dans un beau cantique qui invite tous les fidèles à venir et découvrir l'enfant adoré, salué des anges. Où que nous vivions dans le monde, nous pouvons tous aller à Bethléem, voir la joyeuse nouvelle, même simplement dans notre cœur, pour l'adorer et l'honorer. Je vous offre mon témoignage de Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Je prie pour que nous ayons l'Esprit du Christ écrit sur notre cœur pendant cette période de Noël et pendant la nouvelle année, au nom de Jésus-Christ. Amen.